Brahmin sait où il est. Et il est resté là, dans le temple, et il a soif de servir son père. Il a 11 ans, 12 ans, 10 ans, on ne sait pas, et il a soif, et il est dans la joie de servir son père, comme il a toujours été. S'il a été attristé, à un moment donné angoissé, c'est à cause des attaques de Satan et de la méchanceté des hommes. Mais, pour servir son père, il a toujours été dans la joie. Il l'a fait avec joie. Je vous rappelle que la fois passée, mercredi, je vous ai dit, dans Hébreux, que Jésus, au chapitre 1, je pense, est oint d'une huile de joie. Par rapport à tous les anges, il est oint d'une huile de joie. C'est une joie sacrée et divine qu'on ne peut pas lui ôter. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure Jean, chapitre 17, verset 13. Quand Jésus dit qu'il prie son Père, il s'en va, et dit que ma joie parfaite soit en eux. C'est une joie divine, surnaturelle. Elle n'est pas liée à la météo, ou à ce qu'il y a dans mon portefeuille, ou à ma santé. C'est pas une joie opportune, circonstanciée, c'est une joie éternelle, immuable. C'est une qualité même de Dieu, parce que elle résulte de l'amour de Dieu, de la pureté de son amour pour nous. Un vrai amour est toujours joyeux, quoi qu'il arrive. Moi, je vois souvent, je suis entouré parfois de gens qui ont vite peur, qui ont des angoisses. Je me plais à raconter des blagues, à faire le farfelu. Pourquoi ? Pour qu'ils retrouvent la joie. Et puis, je suis content. Je suis content parce qu'ils ont la joie. Parce que notre vie est faite pour la joie. Quand on a la joie, souvent, on évite beaucoup de maladies. On évite beaucoup de dépressions et de cauchemars. La joie, c'est un cadeau de Dieu. J'y crois beaucoup. Et moi qui étais un timide, étant jeune, je suis devenu un grand blagueur. Pourquoi ? Parce que la joie dans mon cœur a été déposée une fois pour toutes. Je ne la quitterai jamais. Je vous le souhaite aussi, chers amis. Alors, vous voyez ici, dans le chapitre 2, verset 49, que Jésus est dans la joie. Tandis que son père et sa mère, regardez bien, ils sont, au verset 48, « Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il y a quand même un fossé entre des êtres humains et Jésus. Jésus est dans les affaires de son père, avec joie. Verset 50, « Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Je pense avec joie. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, avec joie. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je pense que cette sagesse, cette stature, cette grâce, était accompagnée, assaisonnée de joie. La joie du ciel, que personne ne pouvait lui retirer, et qu'il veut toujours nous donner à tout instant. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Moi je vous baptise d'eau, c'est donc Jean-Baptiste qui parle ainsi. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, donc le Christ, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je pense que c'est un bon serviteur. Il ne fait pas avec un ton misérabiliste. Il est joyeux de voir arriver son maître, Jésus. Mais il dit ça tellement il aime son Seigneur, il aime son Jésus. Il dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Pensez à cette femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus et qui a essuyé avec ses cheveux. C'est pour reconnaître la grandeur de son maître, de son sauveur, de son Seigneur. Il y a eu plein d'hommes et de femmes qui ont aimé Jésus, vraiment, qui l'ont aimé du fond de leur cœur, qui ne se sont pas retenus, qui n'ont pas hésité. Il n'y a pas eu que des méchants autour de Jésus. Alors, ils l'attendaient, ils le désiraient au fond d'eux. Alors, je reprends, chapitre 3, verset 16, Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit de feu. La grandeur de l'amour de Dieu, c'est de faire de nous, qui sommes habités par un esprit humain dégradé, un esprit dégradé par le péché, par des pensées dégradées par le péché, des sentiments, des amours dégradés par le péché, un corps abîmé, dégradé par les effets du péché, eh bien, il donne par son Saint-Esprit une régénération complète. Et c'est une joie pour le Seigneur d'apporter ce cadeau du ciel à cette humanité qui a tout perdu en fin de compte en suivant Satan et en offensant Dieu. Adam et Ève ont offensé Dieu en cherchant à être autonomes et indépendants de Dieu. Ils se sont privés d'une relation où tout était une grâce merveilleuse. Ils ont aussi perdu la joie. On connaît tout de suite la tristesse. Ils sont disputés, accusés l'un à l'autre. Et puis après, bon, les enfants qui sont nés de ce couple, ça y est, ils tombent dans le meurtre. Et toute l'histoire de l'humanité continue ainsi. Et même s'il y a des joies, il y a beaucoup de grands drames. Et donc, quand Jésus vient donner le Saint-Esprit, c'est toujours un esprit de paix, de justice et d'amour. Si vous allez lire Romains 14, 17, vous verrez que le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire. Le royaume de Dieu, c'est paix, justice et amour selon Saint-Esprit. Voilà donc ce que Jésus veut nous donner, un Saint-Esprit qui nous anime dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Le Saint-Esprit étant Dieu, c'est un cadeau formidable. Dieu en nous, qui remet tout à neuf. Voilà, donc c'est une grande source de joie. Quand Jean-Baptiste annonce cela, et il sait la portée de ses mots, de ses paroles, et il a compris toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent cet immense cadeau du salut, de la régénération. Alors, je voudrais continuer à lire, évidemment, parce que c'est une joie pour moi de faire vous lire et vous commenter tout cela. Dans Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc le vendredi à 18h, si vous voulez. Le sabbat dure jusqu'au samedi à 18h. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Voilà, quand Jésus a déposé le rouleau, la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde a les regards sur lui, et qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oula, c'est un coup de canon, ça. C'est un coup de canon, parce que c'est l'avenue du Messie, en Jésus de Nazareth, fils du charpentier. Or, il n'est jamais rien sorti de bon de Galilée pour les Judéens, pour tous les intellectuels, les religieux. Il n'est jamais sorti quelque chose de formidable de ce coin-là. Et ce bonhomme-là n'a fait aucune étude. Il est prétentieux, il est fou. La première réaction, c'est de dire, il blasphème. Il blasphème. Donc il est ennemi de Dieu, en fin de compte. Ce n'est pas ce que Jésus voulait. Jésus dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc c'est un texte qui se trouve dans Ésaïe, et évidemment, il est extrêmement important. Et donc, parce qu'il donne la joie, il donne la liberté, le recouvrement de la vue spirituelle, même physique, et C'est une bonne nouvelle. Il transforme la vie de tous les misérables de la terre par le don du Saint-Esprit, de tous les misérables que nous avons été ou que nous sommes encore, et transforme pour en faire des êtres libres et aimants et aimés du Père, en communion avec le Père, qui vont voir la gloire du Père éternellement, qui n'iront pas en enfer. C'est une bonne nouvelle. Ça rejoint donc 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5. C'est le même thème. C'est le thème permanent du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Alors, dans Luc chapitre 1, verset 46, nous faisons une petite marche arrière. Luc 1, verset 46. Nous allons analyser un petit peu la prière de Marie, puis ensuite celle de Zacharie. Prière animée par le Saint-Esprit divin, le Saint-Esprit de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, a parlé par Marie et par Zacharie. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Nous l'avons lu. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, donc c'est le Christ. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Ceux qui ont une pensée orgueilleuse ne résisteront pas à Jésus à sa venue. Il est juge des vivants et des morts. Ils seront dispersés, ils seront écartés, ils ne feront pas partie du royaume. Donc c'est une prophétie ici. Il a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles. C'est aussi une prophétie. Mais c'est tellement fort que c'est dit comme si c'était déjà fait. Rappelez-vous, quand Jésus prie devant le tombeau de Lazare et qu'il dit à Dieu son Père, « Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. » Puis après il dit, « Lazare, sors !» Pourquoi ? Parce que c'est la certitude divine qui est là en Jésus. Ce n'est pas un homme qui fait des supputations, peut-être bingue, peut-être bingue, non. Je vais me lancer, quoi. Par hardiesse, je vais dire quelque chose, on verra bien. Si on a de la chance, ça se fera. Bon, si je me suis trompé, tant pis. C'est pas ça, Marie, un fait. Marie prophétise. Et vous retrouvez dans la prière de Anne, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, de telles paroles. C'est pas propre à Marie. C'est une prophétie du Saint-Esprit qui est à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. C'est le plan de Dieu qui se dévoile par Marie ici, comme il s'est dévoilé par Anne et d'autres. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Vous voyez donc bien le programme de Dieu. Il n'y a pas besoin de Karl Marx pour établir la justice. Parce qu'avec lui, il n'y a pas eu de justice. Pendant qu'il allait prêcher, faire des conférences, et jouer au grand monsieur dans les universités, sa femme s'occupait des gosses, elle se levait à 3 heures, elle travaillait. Dur, pour nourrir les gosses, et monsieur lui courait les femmes, et il mangeait et buvait. Il se faisait passer pour un grand penseur, avec des grandes vérités. Mais il ne s'agit pas de ça avec Jésus. Jésus est la vérité, et il ne se contredit pas. Il n'utilise ni la force, ni la haine pour établir le bien. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc, il y a quelque chose qui a été dit à Abraham, à Isaac et à Jacob, qui s'accomplit. Et c'est cela que Marie dit. Ça fait l'objet d'une bonne nouvelle. Les promesses faites à Abraham. Nous y allons y venir. Maintenant, qu'est-ce que dit le prophète Zacharie, le prêtre ? Verset 67, Luc 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, prophétisant en ces mots et parlant au nom de Dieu et par Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lorsqu'il a visité et racheté son peuple. Comme Anne et Siméon l'ont dit. Comme les anges l'ont dit au berger. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lorsqu'il a visité et racheté son peuple. Donc, si le Seigneur, le Dieu d'Israël, a visité, c'est ce Jésus de Nazareth. Ça désigne ce Jésus de Nazareth, de l'Évangile. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ce saint prophète des temps anciens. De nouveau, Abraham, Isaac et Jacob, Michée et d'autres, Esaïe, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de servir sans crainte. Donc il y a un temps à venir où nous pouvons servir Dieu sans crainte, sans être combattus, où Satan ne sera pas là, où les ennemis de Dieu ne seront pas là. Donc ça, c'est l'annonce du royaume de Dieu, de Christ. Avec une pleine certitude de la part de Zacharie comme de Marie. C'est une certitude venue de Dieu. Verset 74, 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Marcher devant lui, c'est avec Jésus. La face de Dieu nous est cachée jusqu'au moment où le royaume de Dieu est remis, après les 1000 ans, est remis au Père par le Christ. Mais en attendant, marcher avec qui ? Avec lui dans la sainteté, c'est le Christ, et dans la justice. La justice étant quoi ? Le pardon accordé par Jésus à la croix à tous les pécheurs. C'est par son sang, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par son sang que le salut est acquis. Il n'y a pas d'argent, d'or et d'argent qu'ils peuvent racheter, peuvent procurer le salut. Et pas des œuvres merveilleuses, des œuvres de charité, rien. C'est la justice de Jésus. Dans son sacrifice, dans sa rédemption, et puis après, dans son pardon accordé. Par le don du Saint-Esprit qu'il nous a accordé. Voilà. Alors, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Donc, il parle alors à ce moment-là pour Jean-Baptiste qui est dans le ventre de sa femme. Voilà, vous pouvez continuer à lire tout ce jusqu'au verset 79, ce beau cantique. Je l'ai lu pendant 4-5 ans tous les jours au matin. Je ne m'en laissais pas. Ça me prenait une demi-heure, trois quarts d'heure, je le méditais. C'est comme si je buvais un bon vin dont on ne se lasse pas. Tous les fondements de l'Évangile sont dedans. Alors, allons un peu plus loin. Nous reviendrons à Abraham, hein, à ses promesses que Dieu a faites pour Abraham. Regardons dans Luc, au chapitre 5, verset 25, ce qui est accordé aux paralytiques. S'agit-il seulement de la guérison physique ? À mon avis, pas. Luc 5, verset 25. Et ça, c'est extrêmement important. Verset 24, excusez-moi. Luc 5, verset 24. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est le nom de Jésus, qu'on retrouve trois fois dans le livre de Daniel, parce que Dieu apparaît sous forme humaine sur les nuées à Daniel 6 siècles avant, et c'est vraiment le Christ, avec autorité et sainteté et gloire. Il apparaît à Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 7, 9 et 10, je pense. Alors, ici, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Qu'est-ce qui est le plus important ? Une guérison physique ? De toute façon, on sait très bien que cet homme mourra. Il ira au tombeau, il connaîtra la corruption, puis ensuite la résurrection. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que son nom soit inscrit dans le livre de vie et que tous ses péchés soient pardonnés. Plus tard, il est gentil, s'il est fidèle et obéissant, s'il a fait les bonnes œuvres, etc. Regardez bien, ça dépend du pouvoir de décision et de la puissance de Dieu, de Jésus, de pardonner. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc nous voyons ici quelque chose de phénoménal. C'est que maintenant, à partir de la venue de Jésus, le péché peut être pardonné aujourd'hui, à l'instant même, à quelqu'un, par Jésus. Ça, c'est une richesse pour les hommes. C'est une richesse qui n'existait pas. Toutes les religions entretiennent l'angoisse, l'incertitude. Commence aujourd'hui le ramadan pour 40 jours. Chez les catholiques, c'était le carême, en copie des musulmans, bien sûr, après les croisades. Mais ce qu'il y a, et il y a d'autres religions aussi qui font des jeûnes, etc. Et les juifs en faisaient aussi, parfois jusqu'à 4 mois. Non pas consécutifs, mais en tout cas, il y avait certains qui faisaient 4 mois, au moins un. Et pratiquement, est-ce qu'on a l'assurance du salut après ça? Est-ce qu'on est certain d'être sauvé? Dans le Coran lui-même, le fondateur de l'islam le dit. Personne ne peut dire qu'il est sauvé, à savoir l'assurance du salut. C'est une offense faite à Dieu. Ici, nous voyons qu'il est clair, ni pour un juif orthodoxe. Il ne sait pas s'il est sauvé. Il va pratiquer le Shabbat, il va faire ses prières 3 fois par jour, et puis, s'il est possible, il reconstruira le temple à côté de la mosquée ou à sa place, à Jérusalem, et refera des sacrifices. Mais il ne sera pas certain d'être sauvé. Il n'a pas la certitude. Ils attendent encore le Messie, qui donne le salut, le pardon des péchés. Alors, ici, nous voyons que Jésus se lève, guérit cet homme et dit « Je te pardonne tes péchés ». Il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'homme, c'est que le pardon est immédiat, il est présent. Et il n'est pas basé sur la crainte et l'angoisse. Alors, je vous rappelle ce qui est mis dans Romains chapitre 8, verset 1. Celui qui croit en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Il n'y a point de culpabilité, il n'y a point de condamnation pour celui qui croit en Jésus-Christ. Et autre part, dans Romains et dans Hébreux, il est mis que celui qui croit en Jésus n'est pas dans la confusion. Celui qui croit en Christ n'est point confus. Donc nous pouvons avoir l'assurance du salut, d'être sauvés, non pas parce que, une fois pour toutes, on est devenu meilleur, sensationnellement, merveilleusement bon. Non, c'est pas ça. Parce que simplement on a été pardonné. Pardonné par quelqu'un qui peut et sait pardonner. Et lorsque nous avons en face de nous Jésus qui nous pardonne, notre reconnaissance doit être éternelle et tous nos efforts doivent se tourner vers lui pour lui plaire, pour accomplir sa parole, pour faire sa parole en nous. Alors il est dit dans Jean chapitre 5, versets 23 à 26, il est dit ceci, « Celui qui accepte ma parole et la met en pratique est passé de la mort à la vie, et ne vient point en jugement. » Il est dit, « Le jour est venu où les morts entendront ma parole et ils vivront. » Ça veut dire, sur terre, des hommes vivants qui sont morts spirituellement et qui passent à la vie spirituellement en acceptant Jésus. Donc, je vous invite à lire ces versets de Jean, chapitre 5, versets 23 à 26. Alors, nous voyons bien qu'ici, quelque chose de tout à fait neuf est venu sur la terre. Le pardon est venu sur la terre. Le temps du pardon. Alors, continuons. Au chapitre 5, verset 29. Verset 29. Jésus vient chez un percepteur d'impôts, qui n'est pas un petit saint, qui s'appelle Lévi, et qui plus tard sera appelé par Jésus Matthieu, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Donc Jésus vient manger chez lui, Et Lévi, verset 29, lui donne un très grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains, c'est-à-dire de gens du même métier, qui sont dans les trafics d'argent, au service de Rome, hein, et aux dépens du peuple juif, beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les hommes religieux stricts, murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, quelqu'un qui est pardonné de ce péché, je ne peux pas revenir pour lui, c'est fait. Mais il y a un autre équivoque. Quelqu'un qui se croit juste et qui ne l'est pas. Je suis venu pour lui, mais il ne me veut pas parce qu'il se croit juste. Il ne me veut pas, il me refuse. Il se croit juste. Finalement, dans le cas de la situation la plus fréquente, c'est quelqu'un qui est dans le péché, qui ne le sait pas et qui rencontre Jésus. Et Jésus, par sa sainteté, par son regard, je pense que son regard devait être formidable, et ses paroles, la puissance de sa parole, de sa personne, la puissance spirituelle du Saint-Esprit en lui, la personne voyait comme elle l'était. La personne voyait comme elle l'était. Rappelez-vous ce qui est dit dans Jean, au chapitre 1, quand Jésus voyait ce qu'il y avait dans l'homme, il connaissait l'homme. Pas d'illusion à se faire. Il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Chapitre 2. Jésus, versets 24 et 25, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est pas pour ça que Jésus manque d'amour, évidemment. Il vient par amour et avec joie à la rencontre des hommes. Mais il ne se fait pas d'illusions pour ce qui se passe dans l'homme. Il y a le péché. Il aime le pécheur, mais pas le péché. Il veut bien fréquenter tous les pécheurs. Tous. Pour les sauver. Mais il ne veut pas se tremper dans le péché de l'homme. Dieu n'a pas de compromission. Il compromet avec le péché. Donc, mais en tout cas, pour les hommes, il a une profonde joie de les aimer et de les sauver du péché. Donc, regardons bien dans Luc, au chapitre 5, verset 33, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment, ils font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Donc, les responsables religieux sont choqués. Ils sont choqués. Parce que Jean-Baptiste était quand même un saint homme, et tous ceux qui étaient avec lui étaient stricts. Mais toi, les tiens et tout ça, vous êtes des rigolos. Vous êtes toujours à table avec tout le monde, etc. Et voilà. Et donc, ils critiquent. Mais de toute façon, Jésus leur a fait la remarque. Plus tard, il leur a dit, vous avez critiqué Jean parce qu'il jeûnait, et vous me critiquez moi parce que je ne jeûne pas. Ça veut dire que vous êtes toujours de mauvaise volonté et vous refusez la vérité. Alors, regardons au chapitre 7, verset 34. Chapitre 7, verset 34. Je pense que quand Jésus rentrait chez lui ou allait sur la montagne pour prier, il avait une immense joie. Et il remettait toutes ces personnes rencontrées devant son Père. Et il demandait toutes les grâces pour ces personnes. Il intercédait. On le voit bien dans Jean chapitre 17. La prière sacerdotale de Jean, de Jésus, dans Jean, c'est pour sauver les hommes. Alors, Bénédicte, le téléphone sonne. Il est en train de bouger de place et de partir. Chapitre 7, verset 34. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous voyez ?
Attends, juste deux secondes.
Dans le cas de Jean-Baptiste, comme dans le cas de Jésus, l'amour pour Dieu n'est pas reconnu. Et l'amour pour le salut des hommes n'est pas reconnu. Ce sont des gens qui sont extrêmement durs et qui n'ont pas en eux l'amour de la vérité. Qu'est-ce qu'avait dit Ésaïe à leur propos? Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est Ésaïe lui-même et Jésus, bien sûr, va leur redire. Vous avez fait un pacte avec la mort. Vous avez fait un pacte avec la mort. C'est ce que Dieu dit à ces hommes religieux. Si je ne retrouve pas le texte. Ah oui, voilà. Ésaïe 28, verset 10. Pour vous, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Certains parmi vous peut-être viennent d'une religion ou l'autre où il n'y avait que ça, des règles et des règles. Mais les hommes religieux du judaïsme orthodoxe sont comme ça aussi. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc à ce peuple rigide et religieux. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, etc. Alors, que fait Dieu ici dans Ésaïe 28? Il va dénoncer le fond du cœur. Verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Donc on se moquait de Jean-Baptiste, on se moquait de Jésus. Hein, et ça c'est dit 8 siècles avant. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Donc, les hommes religieux, les hommes qui ne savent pas aimer la vérité, ne sont pas bien dans leur conscience. Ce sont des gens tourmentés, qui s'endurcissent. Et lorsque Jésus va revenir, qu'il va juger les vivants et les morts, c'est-à-dire les vivants, ceux qui ont accepté sa parole et le Saint-Esprit, et les morts, ceux-là, eh bien, ceux-là vont trembler. Tout va être mis à nu. La grêle va détruire l'abri de la fausseté et du mensonge. Mais imaginez l'humanité, quel changement pour l'humanité. Il n'y aura plus que la vérité, la fausseté sera détruite. L'œuvre de la mort, des règles religieuses, hypocrites et dures, sera finie. C'est l'œuvre de la vérité. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à Pilate lorsqu'il était interrogé? Es-tu roi? Jésus répond à Pilate, à cette question-là, il dit, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Il y a certaines personnes qui ont accepté la vérité, effectivement, oui, mais j'espère que c'est votre cas. Si ce n'est pas encore le cas, dépêchez-vous. Jésus n'est pas loin. Alors, nous allons prendre un autre moment où je pense que les hommes qui ont accepté Jésus, qui ont été avec lui, qui ont vu comment Jésus se comportait et dénonçait, ils étaient contents. Voilà quelqu'un qui tenait tête à ces religieux. Qui leur en imposait, qui parlait avec autorité, comme venant de Dieu. Alors, regardons ce que Jésus fait quand il est en train de prier toute la nuit. Luc 6, verset 12. Luc 6, 12. C'est un verset extrêmement important qui doit nous poser question. Que faisons-nous de nos nuits? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, mes amis, si vous n'êtes pas encore vraiment croyants, baptisés du Saint-Esprit, vous n'êtes pas mon frère, mais vous êtes mon ami. Eh bien, vous devez savoir ceci, c'est que je ne suis jamais content quand j'ai passé une nuit dans la ronflette. Je suis toujours heureux quand je suis relevé et que je peux me mettre tout près de mon Seigneur. Hier soir encore, j'étais auprès de mon épouse et mon genou chatouillait. Il me faisait pas mal pour une fois mon genou droit. Il me chatouillait comme si je n'ai qu'une solution, Marie-Hélène. Je mets de l'huile, je mets une bande, je prends mon tapis, je me tourne vers Jérusalem. Et je m'incline devant mon Jésus, mon Seigneur, qui est mort là-bas et qui reviendra là-bas. Oui, je comprends, tu as raison. Il était 11h30 et quand je me suis rendu compte, je me suis relevé, il était 1h30. Le temps est court avec Dieu. Le temps est court. Il est long quand on ne l'aime pas. Il est long quand on manque d'amour. Mais quand on a de l'amour pour lui, le temps est toujours trop court. Vous pouvez remarquer ça. Ah, je suis en visite chez quelqu'un. Ah, tu pars déjà? Ou au téléphone? Ah, tu veux déjà raccrocher? Ben oui, au téléphone, moi je ne veux pas y être des heures, puisqu'il y a combien de coups de téléphone sur une journée? Mais je vois, certains sont privés. Ou en visite, c'est la même chose. Non, 40 minutes. 1h15 maximum. Pourquoi? Je n'irai plus jamais dormir, je ne rentrerai plus, mangerai plus, prierai plus, lirai plus ma Bible. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Et pour vous? Le plan de Dieu, c'est d'être avec votre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des enseignés. Pour être enseigné, il faut lire la Bible. Il faut entendre la parole de Dieu. Donc ça prend du temps. Déjà, il faut du temps. Que ce soit le jour ou la nuit. Mais c'est la nuit. Souvent, moi, que j'ai remarqué, on est tranquille pour lire et pour être un disciple. Pour que nos oreilles s'ouvrent sous l'action du Saint-Esprit. Et ensuite, que se passe-t-il? Dans ces versets-là, Jésus dit, allez, enseignez-leur, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est jour et nuit. Or, la terre tourne. Sur 24 heures, elle a fait le tour. Donc Dieu ne dort pas. Ça, c'est le psaume 130. Le Dieu d'Israël ne sommeille pas, il ne dort pas. C'est le psaume 130. Il est toujours en route pour quelqu'un. Que ce soit le jour ou la nuit. Dans le psaume 139, il est mis que la ténèbre, pour Dieu, n'est point ténèbre, elle est lumière. Donc, si je veux prendre du temps avec mon Seigneur de lumière, avec la lumière du monde pendant la nuit, c'est logique, selon ces psaumes. Le psaume 130 et le psaume 139. Il y a une logique spirituelle que Jésus a accomplie parfaitement et aujourd'hui, éternellement, il est là en requête tout près du Père pour tous les hommes qui doivent encore être sauvés avant que le temps du jugement arrive. Alors Jésus est en requête aussi pour les chrétiens qui ont accepté le pardon, mais qui doivent apprendre, être enseignés, et qui doivent mettre en pratique les enseignements de Jésus. Donc Jésus est toujours à l'œuvre, et il prie toujours pour nous. Lisez Jean chapitre 17, c'est une mine d'or, la prière sacerdotale de Jésus. du prêtre, du grand prêtre, le seul prêtre. Alors la prière de Jésus, ce n'est pas par ennui, parce qu'il ne sait pas dormir, il a des aigreurs d'estomac ou qu'il a mal au dos. C'est une relation de paix, de joie et d'amour avec son Père. Et cette relation est fondée sur toutes les promesses que Dieu a faites pour les hommes. Et il est venu sur la terre, non pas pour faire des ronflettes, mais pour nous sauver. Nous allons y revenir après. Luc 6, verset 38. Je n'interdis à personne, évidemment, de ronfler. Je suis le premier maintenant, depuis quelques années, à ronfler, à faire du... à peine dans le lit. Mais ce qui est étonnant, n'est-ce pas, c'est que ça ne dure pas 10-12 heures. Merci Seigneur. Il me prend par l'épaule, il me parle à mon cœur pour que je me relève. Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein, donc dans votre foi, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Jésus se servait auprès du Père. Il était en réception totale, en intimité incroyablement grande, profonde avec son Père. Et tout débordait quand il allait dans la journée. Tout débordait de lui. Parce qu'il avait reçu pleinement de son Père. Il était la plénitude. Et il nous dit la même chose pour nous. Si nous recevons, nous nous servons, nous prenons en Dieu tout ce que Dieu veut donner. Nous pouvons donner, être des serviteurs abondants en grâce et en bénédiction. Comprenez-vous le mystère de ce verset, la réalité, verset 38 ? Extrêmement génial comme verset, je trouve. C'est comme dans Matthieu 25 avec les talents. Celui qui a 5 talents, Dieu en redonne 5, etc. Ok ? N'ayons pas le cœur étroit avec Jésus. N'ayons pas le cœur étroit avec le Seigneur. Avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut changer, les amis. Ça peut arriver qu'on a souffert dans le passé, qu'on a péché ou que l'éducation qu'on a reçue, le passé nous a fait souffrir. Et puis, on a une petite vie médiocre avec Jésus. Mais Jésus attend mieux que ça. Il veut nous donner beaucoup. Il veut nous remplir. Il est à la plénitude. Colossiens, chapitre 1, chapitre 2. Il est à la plénitude de nous. Il remplit tout en tous. Prenons, puisqu'il nous donne, prenons les bénédictions divines. N'hésitons pas à les prendre pour être, non pas un grand égoïste, mais pour être comme Dieu le veut, pour une fontaine qui déborde de vie. Quand dans Jean chapitre 8, il est dit que l'Esprit Saint coulera en nous comme un fleuve d'eau vive, un torrent d'eau vive. C'est le Saint-Esprit, évidemment. C'est tout le mystère de la vie chrétienne. C'est une vie remplie de vie, de la vraie vie avec un grand V, la vie d'en haut. C'est plus seulement une vie humaine. C'est une vie divine déposée en l'homme. Le pari de Dieu dans la foi chrétienne, c'est déposer l'absolu dans du relatif. Nous sommes très relatifs, nous sommes très limités, et parfois notre foi aussi. Le pari de Dieu, c'est déposer l'absolu dans le relatif. Et je suis certain que Dieu réussira. Tout arrivera à exploser de gloire lorsque Jésus reviendra. Dieu est merveilleux et puissant pour réaliser ses plans. Alors, au verset 45, Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut lire ce verset-là en faisant une sélection genre Darwin ou témoin de Jéhovah. Il y a des gens qui sont bons, qui sont fidèles, qui ont été choisis par Dieu, etc., comme Abraham, Isaac, Jacob. Et puis d'autres, non, ils sont condamnés, etc. Ça, c'est mal connaître Dieu. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le bon trésor, c'est Jésus-Christ. C'est pas l'homme. Le bon trésor, c'est Jésus-Christ en nous. Et le bon trésor me permet d'aller chercher quelque chose de bon dans Jésus-Christ pour vivre et pour le distribuer. Et la même chose, si j'ai refusé Jésus-Christ dans ma vie, ou que je ne l'ai pas encore refusé, accepté, eh bien, dans mon cœur, plein d'égoïsme, d'impureté, etc., d'orgueil, etc., de fausseté, de mensonge, il y a des choses que je peux en tirer pour étaler ça autour de moi. Je peux faire des œuvres, elles seront mauvaises. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par la bouche, je fais voir ce qu'il y a. Il y a Christ en moi ou il n'y a pas Christ. Il y a le trésor du ciel en moi ou il y a le trésor du diable pourri et infecté. Alors, prenons maintenant Luc, chapitre 7, verset 9. 7, 9. Tout ça, c'est pour moi des versets qui donnent la joie pour moi. Ce sont toutes des vérités sources de joie. Chapitre 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, centurion romain, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centurion trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Donc, c'est un homme qui n'a même pas voulu que Jésus vienne chez lui. Il se trouvait indigne. Étant païen déjà, il savait que les juifs, quand ils sont stricts, ne vont pas se souiller chez un païen. Mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Je pense que ce centurion savait que Jésus était le Fils de Dieu. Il l'avait reconnu comme le Sauveur. Et il se sentait indigne. Peut-être qu'il n'était pas encore converti. Mais il s'approchait. Il s'approchait avec joie de Jésus. Il voulait lui faire confiance. Il désirait que Dieu agisse dans sa vie. Et il a déjà un indice favorable pour lui. Je pense qu'il était récompensé par Dieu, en tout cas reconnu par Dieu. L'indice, c'est son amour pour son serviteur, pour son esclave. Et donc, un étranger, un homme dur, un homme qui a du pouvoir, qui a un cœur qui abonde en générosité, en amour pour son esclave, qui n'est sans doute pas comme lui un Romain. Alors, Jésus voit dans cet homme une œuvre bonne. Et il est clairement dit dans Jean, dans l'épître de Jean, que celui qui fait la vérité vient à la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Mais pour celui qui ne fait pas la vérité, il ne vient pas à la lumière. Pourquoi ? Parce qu'il a peur que ses œuvres mauvaises ne soient dévoilées par Jésus. Ça, ce n'est pas un homme qui a peur de Jésus et que ses œuvres mauvaises soient dévoilées. C'est un homme qui a confiance, qui va vers Dieu. Et sans doute, je pense que cet homme, après, a eu la bénédiction, le pardon de ses péchés, de la part de Jésus. Si ce n'est pas à ce moment-là, c'est plus tard. Le temps de la préparation, le temps de la grâce, le temps de la volonté de Dieu aussi, et de l'acceptation de l'homme. Alors, regardons encore un autre point, dans Luc 7, versets 14 et 15, Luc 7. Oui ? Chapitre 7, verset 14, je ne sais pas l'heure qu'il est. 7h10, oui, il y a une heure. Il s'approcha et toucha le cercueil. Donc, il s'agit de qui ? Vous regardez, c'est le Fils unique. Un fils unique qui est mort. C'était un jeune homme ou un enfant, on ne sait pas dire, mais d'une veuve de la ville de Naïn, au verset 11. Et donc, il s'approche du cercueil. Il toucha le cercueil. Ceux qu'il portait s'arrêtèrent et disent « Jeune homme ». Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Nous voyons là la puissance de Jésus. Élie et Élisée ont prié pour des jeunes hommes qui se sont relevés, qui étaient morts. Ici, nous voyons que le Fils de l'homme, Jésus, a ce pouvoir aussi venu d'en haut. En plus, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et cela, Élie et Élisée ne l'avaient pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le cœur de ces hommes, de ces femmes qui sont là, verset 16, « Et tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. » Donc, comme Élie et Élisée, ils pensent à ça. « Et Dieu a visité son peuple. » Ce qui veut dire qu'ils ont reconnu en Jésus quelqu'un de plus grand que Élie et Élisée. Dieu a visité son peuple. C'est la parole d'Anne et Siméon et des anges auprès des bergers. Notre joie, c'est que Dieu visite son peuple, mes amis. Notre joie, c'est que Dieu nous visite. Est-ce que je vais laisser Jésus me visiter? Est-ce que je vais laisser Jésus me rencontrer? Est-ce que je m'arrange? Oui, je crois bien, mais j'ai pas envie qu'il se mêle trop de ma vie, quoi. Ça va tout chambouler, ça va tout changer, ça va... Ouh là 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 là. Ouh, je sais pas où ça va me mener si je dis oui entièrement. Pourquoi avoir peur? Il n'y a que des richesses en Jésus-Christ. Il n'y a que des choses merveilleuses. Son amour est merveilleux. Son œuvre est merveilleuse. Le jour que j'ai choisi Jésus, j'avais pendant 3 mois fait la bataille. La bataille. Je vous raconterai ça une autre fois, lundi prochain. Une bataille, mais une bataille qui me faisait souffrir. Pourquoi souffrir inutilement? Pourquoi faire? Est-ce qu'on aime souffrir finalement? Oui, peut-être. C'est une marque du péché d'Adam et Ève. On a peur de ne plus souffrir. On a peur d'être aimé. On a peur d'être avec notre Dieu merveilleux dans notre vie avec Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi avoir peur? Il n'y a que du bon en lui. Il n'y a que du bien en lui, de la sainteté. Et donc je pense que c'est une source de joie profonde que de dire oui à Jésus et d'accueillir. Rappelez-vous Apocalypse, voici je frappe, chapitre 3, verset 20, « Je frappe à ta porte, si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je mangerai avec toi, tu mangeras avec moi. » Pour se tirer la tête? Pour se dire des fadaises? Non, pas du tout. Une relation d'amour éternelle. Éternelle. Donc les amis, n'ayons pas peur, Dieu a visité son peuple, nous sommes son peuple. Et si vous acceptez Jésus, vous faites partie de son peuple. Pour toujours. Dans chapitre 7, versets 21 et 22. Versets 21 et 22. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean, Jean-Baptiste, qui est en prison, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Effectivement, pour Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de chute. Il était content. Il avait fait son œuvre et Jésus faisait la sienne. Donc, vous voyez ici ce qui vient d'être dit par Jésus, ce sont des paroles dans Isaïe. Nous allons les voir lundi, dans les enseignements de lundi prochain. Dimanche, je ne sais pas ce que je vais enseigner. Il faut que je regarde, je voyais ce que Vincent a préparé, ce que Dieu a mis dans le cœur de nos filles, etc. Je me laisse faire, je suis là pour servir, pas pour toujours diriger. Mais lundi prochain, je vais revenir à tout cela. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Sommes-nous vraiment pauvres? Oui, alors nous pouvons accepter. Au plus d'orgueil, nous disons oui tout de suite. C'est ça le vrai pauvre. Dieu a visité son peuple. Et moi, il m'a visité? Et moi, je l'ai accepté? J'ai invité à table et je fais partie de son peuple à jamais? Je suis dans le troupeau de son pâturage? Psaume 23? Voilà, chers amis. Nous continuerons toute la réflexion sur la bonne nouvelle et sur la joie de la bonne nouvelle lundi, mercredi et vendredi prochain. Alléluia. Avec joie et amour.
Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse tous.
Amen.